Mesdames et messieurs, bonjour. À nouveau, nous voici ici en version originale français avec ma très chère collègue Mathie. Bonjour Mathie Vagnot.
Bonjour, comment ça va?
Ça va très bien, enfin, c'est toujours le soleil chez nous. Hein. Enfin, vraiment, cette année, l'hiver, on ne connaît pas.
Hein. Le mois de novembre demain. Et
pourtant, oh, oui, exactement, tout à fait. Hein. C'est vraiment, c'est fou, hein. C'est fou. Alors, aujourd'hui, nous avons parmi nous vraiment une invitée assez spéciale, hein, puisqu'elle n'a que 23 ans, mais un parcours culturel et quelqu'un avec pas mal d'inquiétudes qui est venue nous rendre visite en Espagne et à la fac aujourd'hui. Il s'agit d'Anissa Arras qui va partager cette émission aujourd'hui avec nous. Bonjour Anissa.
Bonjour Pierre. Bonjour Mathie.
Bonjour.
Alors, Anissa, qu'êtes-vous venue faire en Espagne?
Eh bien, je suis venue dans le cadre du programme Erasmus pour un semestre étudier la traduction et l'interprétation dans l'université d'Alicante.
Et voilà, et vous êtes en train d'étudier à Paris également?
Oui, je suis à la Sorbonne Paris 4 où j'étudie LLCE espagnol. Donc, je suis en troisième année et je prépare ma licence.
D'accord. Et y a-t-il des différences entre vos études en France et les études que vous êtes en train de suivre actuellement pendant un semestre, si j'ai bien compris, à Alicante?
Oui. En France, nous ne sommes pas spécialistes. Alors qu'en Espagne, on se spécialise dès la licence. Et... En France, on ne se spécialise qu'à partir du master.
Ok, c'est-à-dire qu'un master est toujours nécessaire. De toute façon, je pense qu'en Espagne, on veut vraiment nous reconvertir, nous porter déjà vers le système français. C'est un petit peu ce que l'on voudrait faire. Faudrait voir vraiment si c'est ce qu'il y a de mieux. Enfin, moi, je ne suis pas vraiment partant, je pense toujours aux étudiants. Je trouve que les masters sont chérissimes. Et que tout le monde ne peut pas payer les frais d'un master, c'est quelque chose, c'est chérissime. Donc faudrait voir vraiment si ça en vaut vraiment la peine. Enfin cette Europe de Bologne dans laquelle en principe à laquelle on voudrait accéder parce qu'il y a des aspects positifs puisque il y a l'échange de du point de vue mobilité des personnes, formation qui sont très intéressantes, mais en même temps il faudrait peut-être faire une petite révision de ce que l'on entend par Bologne. Qu'en penses-tu?
Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai pu voir les différences au niveau des frais de scolarité ici en Espagne qui sont des prix mirobolants, alors qu'en France, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation, c'est quand même plus accessible qu'en Espagne.
Oh là là! Et quelle langue tu fais ici en Espagne?
En Espagne, je fais du français et de l'espagnol.
Et du français aussi?
Oui, avec Pierre.
Ah bon?
Je suis en cours de contraste linguistique et je fais de l'interprétation également, français-espagnol, et de la traduction de la littérature.
Mmh. Très bien. J'ai entendu qu'il y a quelqu'un qui a proposé un travail pour traduire le Mystère d'Elche.
Ah, le Mystère d'Elche,
ouais.
En français.
En français.
Ben, ouais. Ça a l'air d'être quand même assez sympa de rendre plus international donc, le mystère. Et ben voilà, ben, on le note. On a déjà, grâce à Mathie, donc on a cette nouvelle aujourd'hui en toute exclusivité pour notre audience.
Ouais. Ouais.
Et saurais-tu qui s'en occupe en principe?
C'est la cathédrale.
Cathédra,
oui,
d'accord.
Dans notre cathédra Mystère d'Elche à l'université Miguel Hernández.
Miguel Hernández même. Bon ben, félicitations pour cette initiative.
Ouais. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus de l'Espagne à ce moment-là?
Ce que j'aime, c'est la nouveauté. Découvrir de nouvelles choses tous les jours. Des fois, c'est pas facile, mais après, on peut vraiment profiter et on est content de cette nouveauté permanente, cette découverte quotidienne, c'est très intéressant.
Et qu'est-ce qui t'a frappé en particulier quelles sont les différences majeures que tu as trouvées et peut-être certains quiproquos, certaines choses, On parlait il y a un petit moment, en fait, d'une situation toute récente. Simplement pour parvenir au studio ici à Elche, aujourd'hui même, tu habites à San Vicente.
Oui.
Et pour le transport, qu'est-ce qui t'est arrivé? Parce que tu voulais faire une réservation ou quelque chose. Raconte-nous un petit peu.
Alors, tout d'abord, pour venir, j'ai eu beaucoup de mal à trouver. Je pensais prendre une navette et je me suis aperçue que la navette n'était réservée qu'aux étudiants vivant à Elche même. Et j'ai dû chercher un billet de train. J'ai bloqué ma carte bleue et j'ai quand même réussi à trouver un billet pour venir. C'était assez compliqué et assez long pour trouver.
Surtout parce que tu viens d'arriver en Espagne et qu'on ne connaît pas encore certaines choses. Mais je voulais surtout que tu nous racontes ce qui t'est arrivé, donc ce quiproquo linguistique avec ton ami espagnol. Tu étais en train d'expliquer, lui expliquer en espagnol ce qui t'est arrivé. Tu peux le raconter en espagnol aussi si tu trouves que c'est bon. Hein, je veux dire, c'est...
Alors, j'avais bloqué ma carte bleue et en français pour dire... carte veut dire plusieurs choses, donc el mapa, la carta, donc la lettre, et la carta, juego de carta. Carte fait référence à beaucoup de mots. Et dans la précipitation, l'énervement, j'étais en train de lui dire se me ha bloqueado la carta, se me ha bloqueado la carta, no sé qué hacer, no puedo, no tengo dinero, ¿cómo voy a hacer? Et lui ne me comprenait pas du tout et il me disait mais qué me estás contando, no te entiendo. Et voilà, avec l'énervement, le français m'est venu et c'est assez, comique comme situation parce que je me rendais pas compte que j'étais en train de me tromper et lui ne me comprenait pas et c'était
n'étant pas francophone,
voilà, ouais. Ne parlant
les
pas faux du
amis,
français. Oui,
les faux amis, c'est dangereux.
Carta, tarjeta en espagnol, hein. D'accord, pour les personnes qui
non, elle va jamais
écoutent,
oublier.
Hein. Non, je pense que la prochaine fois, ce sera vraiment
on
clair.
On les connaît, mais il suffit d'être sous le coup de l'émotion pour que le naturel revienne et qu'on finisse par se tromper.
Bien sûr.
Oui, bon, tu parlais également des prix mirobolants à la fac en Espagne, mais à vrai dire aussi, si les prix sont quand même plus élevés, c'est que pour l'instant, encore en Espagne, il y a un service, peut-être des universités assez modernes quand même, alors que peut-être en France, il y a un travail énorme à faire, et vu que les étudiants paient beaucoup moins. Et donc, on investit moins dans les facs qui, ici en Espagne, sont quand même assez modernes de ce côté-là.
Oui.
C'est une question que je pose. Hein.
Oui, non, mais je suis totalement d'accord avec vous. D'ailleurs, à la fac d'Alicante, j'ai pu découvrir l'interprétation. Parce que la fac d'Alicante est équipée de laboratoires de langue, où on peut pratiquer dans des vraies cabines d'interprètes et découvrir le métier d'interprétation, alors qu'en France, ce n'est pas du tout possible, du moins à Paris, de faire de l'interprétation. C'est totalement différent de la traduction. C'est un exercice instantané qui ne requiert pas de la patience et de la précision, mais plutôt de l'agilité, de la rapidité et de la mémoire à court terme. C'est un exercice assez intéressant que j'adore et que j'ai pu découvrir en venant ici.
Ah, c'est une chance. C'est vrai que beaucoup de Parisiens partent pour Mons, par exemple, du côté de Bruxelles, en Belgique. C'est une fac réputée et c'est vraiment dommage qu'à Paris, une grande ville aussi, ne compte pas également avec donc ces cabines vraiment qui nous font vivre. Donc, cette profession que j'adore étant interprète, Mathy également de même, on le vit, on aime.
Je pensais parce que lorsque nous étudions là-bas, c'était déjà cette cabine.
Ça existait déjà. Et donc c'était quand même assez moderne.
Il y a 17 ans.
17 ans déjà. Que le temps passe vite, Mathy, n'est-ce pas ? On se connaît déjà depuis bien longtemps. Hein,
ouais.
C'est vrai.
Alors que c'est surprenant qu'en France, ils n'ont pas réussi à se moderniser.
Pas du tout.
C'est parce que c'est pas possible je sais plus.
De faire ses frais.
Ouais,
de,
voilà. D'investir. Si tu connais pas ces moyens et les moyens techniques pour.
Tout à fait nécessaire. Ouais. Sans quoi on peut pas se lancer dans cette aventure comme sûr. Ça, de but en blanc. Bon, et puisqu'on y est, tu es plutôt porté vers la traduction, vers l'interprétation. Qu'est-ce qui te branche le plus?
Étant donné que je viens de découvrir l'interprétation...
C'est tout récent.
C'est tout récent.
Oui.
Je pense que je pourrais vous répondre dans quelques années.
Mm-hmm. Bon, ben, alors, on t'attendra toujours ici, je l'espère.
Hein. Ouais, bien sûr.
Et voilà.
Tu voulais faire la musique, n'est-ce pas, Pierre?
Alors, oui, ce serait bien de faire une petite pause. On n'a pas parlé encore des origines d'Anissa, qui balance entre l'Orient et l'Occident. On en reparlera juste après cette petite pause musicale. Alors, j'aimerais bien qu'on découvre ensemble, pour les personnes qui ne connaissent pas cette chanteuse qui est belgo-égyptienne, Natacha Atlas, que j'aime beaucoup, avec une chanson merveilleuse qui nous fait avoir espoir dans la vie, qui nous fait réfléchir un petit peu sur ce qu'est la vie. Il faut croire dans la vie, croire... Et la chanson s'appelle en fait « Mon ami la rose », une chanson qui est en fait une version de cette même chanson qui avait été écrite en 1964 pour Françoise Hardy, qu'elle va reprendre en 2002 et qui lui donnera un côté orientalisant et qui est un but d'humanité. J'espère que vous allez l'apprécier. Et après, eh bien, nous allons nous intéresser également à Anissa et qu'elle nous parle un petit peu de ses connaissances linguistiques, parce que Anissa parle plusieurs langues, si je ne m'abuse, 7 langues.
Wow.
Elle a un parcours quand même assez important, même si elle reste toute modeste, du point de vue de son voyage dans la vie. Et bien, on va le faire déjà en écoutant cette très belle chanson, et à tout de suite.
On est bien peu de choses, et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
Je serai poussée.
Bon, alors, vous avez apprécié, vous connaissiez déjà mon amie La Rose, Natacha Atlas.
Oui. Oui, j'adore. Je l'ai sur ma playlist Spotify. Je l'écoute régulièrement. C'est une chanson que j'aime beaucoup, que je trouve très belle et très poétique.
Oui. Eh bien, voilà, c'était juste pour en fait présenter un petit peu. Donc également, donc on va parler un petit peu maintenant d'Anissa, là, enfin d'un point de vue personnel, un peu plus personnel. Enfin, on va rester dans le respect le maximum. Mais enfin bon, vous habitez Paris dans le 19e arrondissement, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais vous avez quand même des origines assez variées. Votre famille a bien bougé, vous aussi, et vous adorez les langues. Alors, on veut vous connaître un petit peu plus également de ce côté-là.
D'accord. Alors, j'ai mon père qui est né à Melilla.
Qui a la nationalité espagnole.
Voilà. Et ma mère qui est née en Algérie, à Aïnol Turc, qui est née française. Et mon père est parti en France parce que mon grand-père avait du travail en France. Et ma mère est partie en Belgique, à Bruxelles, parce que son père avait du travail là-bas. Et donc, mes deux parents sont d'origine marocaine. Donc, j'ai la chance de connaître le Maroc, l'Espagne, la France et la Belgique.
C'est quand même assez enrichissant, faut le dire.
Oui, bien sûr.
Et le Maroc, ce pays merveilleux, magnifique aussi.
Très.
Vraiment, qui en vaut vraiment la peine. J'ai organisé avec des étudiants également de l'université de Contraste. On a fait un voyage au Maroc il y a quelques années. Je crois que c'était en 2008, si je ne m'abuse. Hein. Vraiment, c'était extraordinaire. On s'en rappelle toujours. Hein. Mm. Et c'est vraiment enrichissant et ça nous permet de voir donc la francophonie sous d'autres bords, hein,
oui,
et d'autres réalités. Qui sont proches et en même temps, donc on ne connaît pas forcément bien. Et voilà. Bon, du point de vue langue également, on voudrait savoir enfin quelles sont les langues que vous maîtrisez, les langues que vous avez étudiées tout au long de votre vie, tout au long de 23 ans, parce que j'ai appris que ça en fait quand même pas mal.
Oui. Alors, je parle le français, bien évidemment, l'espagnol, l'anglais, le rifin.
Le rifin en espagnol, el rifeño.
El rifeño, oui. Le russe, le portugais, du Portugal et du Brésil. Et le catalan.
Et le catalan, ça c'est aussi de chez nous en fait, je veux dire. Et le catalan, vous l'avez étudié où en fait ?
À l'université.
Alors à Paris, on peut étudier le catalan également ?
Oui. Récemment, la licence a été modifiée et on a rajouté la mention régionale parce qu'on a la chance d'avoir des cours de catalan, étant donné qu'il y a l'Institut de la langue catalane à Paris qui est en collaboration avec la Sorbonne. Et j'ai pu faire du catalan. Ainsi que du portugais que j'ai également commencé à la fac. Donc voilà.
Ça en fait pas mal. Je crois que Mathie voulait poser une question tout à l'heure. On était en train de discuter un petit peu de...
Oui, bon, c'est à cause de savoir que les catalans, on peut l'apprendre ailleurs. C'est intéressant parce que ça fait forcément que l'Europe doit être... à côté des langues, n'est-ce pas ? C'est l'Europe des peuples qui va travailler pour ça, pour les langues, pour les cultures, les différentes cultures.
Et tenir compte donc des minorités qui enrichissent donc cette Europe que l'on dit des peuples, mais qui bien des fois est surtout très matérialiste et surtout très économique, politique, mais surtout économique. Donc cette Europe des peuples, en fait, qui en fait ne fait que s'enrichir, donc avec... avec toutes ces langues qui, malheureusement, on en parlait juste avant l'émission, Mathilde disait, bon, j'ai répertorié combien de langues en Inde en ce moment ?
1300 langues.
1300, alors qu'en Europe, on en a que
70.
70, alors je veux dire, et l'Inde est toute petite par rapport à l'Europe, donc on se pose des questions quand même, qu'est-ce qui s'est passé ici, quand on sait parfaitement que beaucoup de langues disparaissent enfin, rapidement, et qu'on ne mise pas sur ces langues, en fait. On est en train plutôt d'assister en ce moment, même dans les facs ou ailleurs, à essayer de réduire donc, cette présence linguistique qui va au-delà des langues, puisqu'elle est surtout culturelle. Une langue, c'est également donc, une cuisine, c'est des chansons, c'est des traditions, c'est des expressions, c'est des formes de vie et, qui se perdent.
Exactement.
Bien souvent.
Exactement. Pour parler le rifin, nous sommes 2 millions dans le monde.
2 millions, c'est pas énorme. Enfin, le rifin, c'est cette région du nord du Maroc, hein, oui. Qui jouxte l'Espagne.
Voilà. Et donc, j'ai toujours défendu le rifin que j'ai passé au bac.
Quand même, le rifin au bac, est-ce possible en France ?
Oui, c'est possible.
Félicitations, vraiment, hein, parce qu'on se demande parfois...
J'étais la seule à le passer, mais comme c'était possible, je l'ai passé.
C'est extraordinaire. Combien de langues existent-ils pour le bac en France ? Parce que c'est vrai que, par exemple, ici, à Valence, nous avons un maximum de 3 langues, ce que je sache. L'anglais, le français et l'allemand. Pas plus que ça. Alors, on établit une comparaison avec le rifin, déjà, qu'on trouve tout à fait minoritaire, c'est vraiment hallucinant. Déjà, on n'a pas l'arabe en Espagne et on se dit pourquoi on n'a pas donc d'italien, on n'a pas de russe, on n'a pas d'autres langues, alors que vous avez le rifin.
On a le... pour le bac, il y a la possibilité de passer un nombre assez important de langues, de dialectes. Ça va du rifin au schleur, au kabyle, au dialecte africain aussi, qui sont pratiquement tous représentés, le créole, le perse même, vraiment beaucoup, beaucoup de langues. Mmh. Et même s'il n'y a qu'une personne qui le passe, c'est possible.
Oh là là. Mmh.
Ça nous a l'air... énorme. Je voulais simplement que vous nous expliquiez un petit peu comment se passe une épreuve de langue en France pour le bac. Parce que j'ai l'impression que l'Espagne a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là pour en arriver au même stade, non seulement déjà du point de vue de l'offre des langues, mais également de la manière dont se passent ces épreuves pour les langues.
À l'écrit ou à l'oral ?
Voilà, parce qu'en Espagne, sachez que ça ne se fait qu'à l'écrit. Mmh. Alors c'est pour ça que je voulais qu'on en parle maintenant pour que notre audience, surtout les Espagnols qui étudient le français, sachent comment ça se passe en France.
Alors, déjà pour les langues, les langues obligatoires, ça se passe d'une manière différente puisqu'il y a un écrit et un oral. Je parle de l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Ils sont les langues obligatoires.
Les obligatoires, oui.
Il y a une épreuve écrite, c'est un texte avec des questions sur le texte et une partie expression où il faut faire deux rédactions. Et à l'oral, c'est une préparation de 10 minutes et une interrogation de 20 minutes. Et pendant que... la personne est en train de préparer à l'écrit durant les 10 minutes, il y a une autre personne qui, en même temps, est examinée.
Bon, eh bien, vraiment, on voit vraiment des différences. Nous, je pense qu'on devrait commencer à travailler également sur l'oral des langues, parce que c'est vrai qu'on mise beaucoup sur l'écriture, sur la compréhension écrite, et à vrai dire, surtout, on étudie la plupart des Espagnols étudient le français et l'anglais, et c'est quand même assez simple. C'est vraiment assez simple. Il n'y a qu'une seule rédaction déjà à l'écrit et il n'y a pas d'oral. C'est vraiment... je crois qu'il faut s'y mettre également. Il faut s'y mettre parce que l'oral, en fait, les connaissances liées à l'oral dépendent surtout du travail réalisé par le professeur en cours. Mais forcément, on n'est pas obligé vraiment de le faire si vraiment après ça ne compte pas. Et bon, on est déjà en train de mettre fin à l'émission d'aujourd'hui. On aurait envie d'inviter à nouveau Anissa, puisqu'elle a tellement de choses à nous dire. Et simplement, bon ben, Anissa, je pense que vous adorez la littérature. Simplement, quelques conseils de lecture, peut-être, pour notre audience. Les livres que vous aimez bien, parce qu'on sait que vous adorez la musique, la littérature. Pardon.
Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à un auteur et qu'il faut vraiment avoir une lecture internationale. J'aime beaucoup certains auteurs comme Samuel Beckett, Guy de Maupassant, Edgar Allan Poe ou même Horacio Quiroga. Je lis également Les Contes des Mille et Une Nuits et j'ai même des moments plus détendus où je lis des bandes dessinées comme Garfield que j'adore.
Il faut tout lire.
Tout lire, voilà. Quand je lis Garfield en anglais pour avoir de l'anglais, je lis Horacio Quiroga pour avoir un peu d'espagnol et voilà.
Vous lisez toujours en version originale, si possible.
Oui, si possible. Si possible, je lis en version originale.
Mais oui, l'Espagne aussi devrait se mettre à l'heure de la bande dessinée, je pense. Il y a d'excellentes histoires, même en Espagne d'ailleurs, avec d'excellents professionnels. Et pourtant, ça s'arrête à un certain âge où on considère ça vraiment d'une certaine modernité qui n'est pas à la portée de tout le monde puisqu'on ne partage pas. Ça n'a pas ce caractère universel que l'on retrouve
en France.
Bon ben là, c'est le moment de se quitter, mais disons que ce n'est qu'un au revoir.
Et oui.
Merci beaucoup.
Merci à vous de m'avoir permis de m'avoir invité dans cette émission. C'était vraiment génial, une expérience formidable. Merci.
Bon ben avec Zaz et dans ma rue, c'est Paris qui nous dit au revoir. À plus.
À plus.
Au revoir.
Et pour nous nourrir tous les quatre, ma pauvre mère travaille au lavoir. Moi je suis malade, je reste à ma fenêtre, je regarde passer les gens d'ailleurs. Quand le jour vient à disparaître, il y a des choses qui me font un peu peur. Dans ma rue, il y a des gens qui se promènent. Je les entends chuchoter et dans la nuit, quand je m'endors, percé par une